Suivez Priorité Santé avec Suno Assurance et sa garantie de financer les études supérieures de vos enfants, quels que soient les aléas de la vie. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé, Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Nous vous proposons aujourd'hui de découvrir au cours de cette émission des syndromes psychiatriques rares qui peuvent sembler à première vue étonnants, parfois à la limite du concevable. Des troubles délirants qui plongent les patients dans un monde d'illusions, délire d'identification, comportement irrationnel, mythomanie, syndrome de Capgras ou illusion des sosies, syndrome de Cotard, négation du corps, sentiment de putréfaction de certains organes corporels, syndrome de l'accent étranger, syndrome de la main étrangère ou syndrome de Diogène, engloutis sous ses déchets. Certains de ces troubles font courir des risques réels aux sujets concernés. Ils peuvent être associés à des pathologies physiques ou mentales, consécutifs à des traumatismes. Ils peuvent plonger les individus dans une détresse profonde, tout comme l'entourage, confronté à des discours et des attitudes parfois invraisemblables. Des affections rares, ce qui peut compliquer le diagnostic comme la prise en charge, des atteintes qui affectent gravement le quotidien, d'autant plus que ces symptômes, même lorsqu'ils sont spectaculaires, peuvent s'accompagner d'une forme de déni. Des pathologies qui interrogent en tout cas sur la complexité de la santé mentale, sur le regard des autres et la nécessité d'un traitement pour éviter isolement, rupture et prévenir surtout les pensées et actes suicidaires. Syndrome de Frigoli, syndrome d'Alice au pays des merveilles, syndrome de Jérusalem, de Munchausen par procuration, paraphrénie, paramnésie réduplicative, oui, ou acrotomophilie. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces noms complexes, ces troubles qui peuvent prendre des dimensions délirantes, dangereuses, morbides, même parfois sordides? Pour nous répondre, avec nous en studio, docteur Boris Chaumette, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre responsable du centre de référence pour les maladies rares à expression psychiatrique au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, chercheur en génétique des troubles psychiatriques à l'Institut de Psychiatrie et Neurosciences de Paris et enseignant à l'Université de Paris. Maladie psychiatrique rare que l'on rencontre aussi à Kinshasa, comme nous l'expliquera le professeur Samuel Mampounza, neuropsychiatre, président de la Société africaine de santé mentale et actuel secrétaire général académique de l'Université protestante du Congo. Des soignants et des proches confrontés à ces troubles, c'est le cas de Justine, dont la mère est atteinte du syndrome de Diogène. Nous entendrons son témoignage au cours de l'émission. Et puis, à la fin de Priorité Santé, on retrouvera la chronique nutrition de Stéphane Besançon, nutritionniste, directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako, au Mali.
Priorité Santé sur RFI.
Maladie psychiatrique rare, je disais tout à l'heure, des descriptions parfois à la limite du vraisemblable pour certaines des manifestations. Évidemment, pas question ni de faire une liste, ni de stigmatiser au travers des symptômes spectaculaires pour tomber dans le voyeurisme, mais plutôt de décrire, d'essayer de comprendre à quelle maladie ces troubles peuvent être associés, ce qui pourrait les provoquer, comment soulager surtout celles et ceux qui en souffrent, comme leur entourage. C'est donc ce à quoi on va essayer de s'attacher en votre compagnie, docteur Chaumette. Peut-être pour commencer, faire une distinction assez simple, à première vue, entre maladie rare à expression psychiatrique et maladie psychiatrique rare. C'est quoi la différence ?
D'abord, merci de donner la parole à la psychiatrie. On en a bien besoin, notamment par les temps qui courent, où on voit qu'il y a beaucoup de gens qui, suite au confinement et au Covid, développent des symptômes. Et il y en a des symptômes qui sont très rares, dont on va parler, mais il y a une grande partie des symptômes qui sont très fréquents dans la population et sur lesquels il faut absolument que les gens soient conscients et puissent être pris en charge. Les syndromes rares, c'est-à-dire qu'on scoute tous les mots que vous avez donnés, les noms propres, il y en a beaucoup et c'est des descriptions de symptômes qui, par leur fréquence dans la population, sont plutôt associés à des petits nombres d'individus, c'est-à-dire quelques individus qui vont sentir tel ou tel symptôme. Ça, c'est les syndromes psychiatriques rares. Et puis, à l'inverse, il y a des maladies rares qui sont définies, qui ont une maladie, par exemple, génétique, métabolique, inflammatoire, neurologique, avec des moments, des symptômes qui vont être psychiatriques. C'est-à-dire que ce n'est pas une entité psychiatrique en tant que telle, mais c'est une maladie dans laquelle la psychiatrie va rendre des services, va aménager un traitement pour diminuer les symptômes.
Ça veut dire que, par exemple, on peut avoir une inflammation et se mettre à avoir des pensées délirantes. Si on traite l'inflammation, les pensées délirantes vont s'arrêter ?
C'est exactement ça. Par exemple, le lupus, On peut avoir des symptômes psychiatriques, ça peut être des dépressions, une fatigue importante, voire des idées de suicide ou des éléments délirants qui vont être traités par des traitements type des corticoïdes. Donc, c'est-à-dire qu'on traitera différemment, on traitera la maladie qui est en dessous et on diminuera les symptômes psychiatriques.
Ça veut dire qu'on souffre mentalement à cause de l'impact de la maladie ou est-ce qu'il y a quelque chose qui se fabrique dans la tête, dans la sensation, dans le ressenti qui est une maladie réelle? Est-ce que c'est une conséquence ou est-ce que c'est finalement un symptôme?
Deux cas de figure, vous avez une souffrance psychique et donc du coup qui vient d'une douleur physique, d'une maladie chronique. Et donc ça, on le comprend bien, ça veut dire des gens qui vont être déprimés d'avoir par exemple une sclérose en plaques, etc. Mmh. Et puis une expression parfois du corps qui va passer par des symptômes psychiatriques. Ça nous rappelle quand même que le cerveau n'est pas une sorte d'organe qui flotte au-dessus du corps. Il est ancré dans la matière, le cerveau, il est ancré dans le corps.
Alors, certaines de ces maladies, on a pu en entendre parler, docteur Chaumette, c'est vrai qu'il y a beaucoup de films et surtout des séries médicales qui utilisent un petit peu les ressorts extraordinaires de ces maladies, parce qu'il faut bien dire que ces maladies sont parfois rares et extrêmement spectaculaires. En termes de fréquence, est-ce qu'il y a vraiment certains de ces troubles, de ces croyances délirantes qui se retrouvent plus que d'autres ?
Ça va dépendre aussi des cultures. Mmh. Par exemple, vous citez des films, il y a le film Le Truman Show, par exemple, qui est un film qui met en scène des symptômes que peuvent avoir certains patients psychiatriques, l'impression que le monde est irréel autour d'eux. En fait, ça dépend des cultures, ça dépend de l'histoire. C'est-à-dire qu'on n'a pas, au cours de l'histoire, toujours les mêmes symptômes. Il y a, par exemple, une vague d'amnésie dissociative et de fugue dissociative, des gens qui partaient comme ça sur les routes, là c'était au 19e siècle, qui quittaient leur domicile, qui laissaient tout en plan. On a des phénomènes, par exemple dans certains coins du monde, en Asie, qui vont être propres à l'Asie. Par exemple, des gens qui vont avoir des crises de folie et qui vont se mettre à tuer au hasard dans la rue avant de retourner la violence contre eux et de se suicider. Il faut aussi imaginer que le délire, il vient de la société. Enfin, il est ancré dans la société. Imaginez, aujourd'hui, il y a des patients qui vont penser, par exemple, qu'il y a une puce qui est implantée dans leur cerveau et qu'on écoute leurs pensées. Ces choses-là, elles n'existaient pas au Moyen-Âge, par exemple. Donc, c'est évident qu'on délire aussi avec le contexte dans lequel on vit.
Alors, comment on peut expliquer, docteur Chaumette, parce que ça arrive aussi, le lien entre certains chocs, ça peut être un traumatisme physique ou même psychologique, un deuil, un acte de violence, et la survenue de ces troubles?
Il y a une très belle histoire là-dessus qui raconte un seul patient. C'est des cas de neurologie qui souvent reposent sur un ou deux patients qui permettent de mieux comprendre le fonctionnement du cerveau. Un ouvrier sur un chantier qui a une explosion et qui prend une barre à mine, donc qui servait à faire exploser pour faire passer les routes, faire exploser les rochers, et qui est transpercé au niveau du cortex préfrontal. Aucun effet apparent chez lui, c'est-à-dire qu'il se souvient de tout, il est conscient, il n'y a aucun problème, il se souvient de sa famille, il rentre le soir, etc. Par contre, la famille note très rapidement qu'il change de comportement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a touché des zones qui viennent commander un peu la façon dont on pense, ses valeurs morales, etc. Et donc, du coup, on est, par ces histoires, ces descriptions uniques, aujourd'hui en mesure de pouvoir préciser aussi les atteintes au niveau du cerveau et ce qu'elles entraînent.
On l'observe comment avec de l'exploration cérébrale, docteur Chaumette? Comment est-ce qu'on le voit?
Alors, historiquement, c'était de la neuropsychologie. On faisait passer des tests aux patients et on repérait quels étaient les symptômes en fonction des différentes zones cérébrales qui étaient touchées. Aujourd'hui, on a des IRM, des imageries qui nous permettent de suivre en direct le fonctionnement du cerveau et donc de pouvoir faire des tâches aux patients et de voir quelles zones cérébrales s'allument.
Alors, est-ce que ces maladies parfois un petit peu bizarres, délirantes, c'est un terrain de recherche important pour ceux justement qui essayent d'en savoir plus sur la psychiatrie, notamment en neurosciences?
C'est extrêmement important. Les maladies rares, elles sont vraiment une source immense de connaissances. C'est vrai dans tout le champ de la médecine. C'est souvent par le champ des maladies rares qu'on arrive à comprendre les choses. C'est pour ça que dans les centres de référence maladies rares, qu'il y en a à l'hôpital Sainte-Anne, au GHU Paris Psychiatrie Neurosciences, mais aussi sur l'ensemble du territoire, il y a toujours un centre de référence à proximité, on a une mission aussi de recherche. C'est-à-dire qu'on comprend, on apprend des patients, on apprend des symptômes des patients. C'est extrêmement utile.
Alors, un certain nombre de ces problèmes de santé mentale portent sur l'identification, là c'est très spectaculaire, des personnes qui se réveillent ou qui, au fil du temps, ont l'impression que tout l'entourage, c'est non plus les amis, la famille, le mari, les enfants, mais des sosies qui se sont substituées. Comment est-ce qu'on en arrive à là, imaginer cette chose qui ressemble vraiment à un film de science-fiction, même quasiment un film d'horreur ?
Oui, avec son pendant qui est le, donc ça vous évoquez le syndrome de Capgras, et le pendant c'est le syndrome de Fregoli, où on pense qu'une personne, la même personne va se déguiser pour nous suivre partout, que ce soit les amis, que ce soit la famille, etc.
On donc voit que en là... fait on est toujours suivi par une seule et même personne alors que c'est un collègue de travail, un voisin ou sa femme.
Exactement, et d'ailleurs ça porte le nom d'un acteur italien bien connu, Fregoli, qui était capable de changer rapidement de costume entre les différents moments d'une pièce de théâtre. Et donc du coup ces syndromes-là, ils évoquent quelque chose, c'est la prosopagnosie. C'est un mot savant pour dire qu'il y a des troubles de la reconnaissance du visage. La personne est incapable de reconnaître le visage des proches. Si vous lisez, si vous intéressez à ces histoires psychiatriques rares ou neurologiques rares, il y a un très beau livre d'Oliver Sacks qui s'appelle « L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau ». C'est un homme qui est complètement capable d'être dans la vie de tous les jours, de pouvoir s'habiller, de pouvoir marcher, etc. Mais il n'arrive plus à reconnaître le visage des autres. Et à un moment, il y a ce fameux geste où il attrape la tête de sa femme et il essaie de la mettre sur sa tête comme si c'était son chapeau. C'est une description unique, mais ça montre bien qu'il y a un trouble de la reconnaissance des visages qui est très isolé chez ce patient.
Alors, parmi les troubles assez fréquents, même c'est rentré dans le vocabulaire, il y a même des entreprises spécialisées. Le syndrome de Diogène. Est-ce que vous pouvez nous décrire, docteur Boris Chaumette, de quoi il s'agit précisément ?
C'est quelque chose qui ne recoupe pas une seule maladie. Ça peut se retrouver dans les personnes âgées avec des troubles intellectuels, ça peut se retrouver aussi dans, par exemple, la schizophrénie, dans la dépression avancée, dans les troubles obsessionnels compulsifs où les gens vont entasser des objets. Et donc, en général, il y a une atteinte de l'hygiène personnelle de l'individu et puis, en même temps, une accumulation d'objets de manière éparse avec des gens qui vont ne pas du tout vider leurs poubelles, qui vont entasser les objets à domicile, des gens qui vont, par exemple, récupérer des téléviseurs dans la rue et les stocker dans leur garage. Ce genre de choses. Et donc, on comprend qu'il y a des entreprises spécialisées qui doivent venir pour pouvoir vider l'appartement avec des gens qui, des fois, se retrouvent ensevelis sous les déchets.
Alors, vous restez avec nous, docteur Boris Chaumette. Tout de suite, un témoignage dans Priorité Santé.
Priorité Santé sur RFI.
Et ce témoignage, c'est le vôtre. Justine, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour docteur. Bonjour.
Alors, témoignage, parce que votre mère, justement, est atteinte de ce syndrome de Diogène. À partir de quand est-ce que vous avez observé des changements chez votre maman ?
En fait, ça c'est... Enfin, c'était vraiment très subtil. Ça commençait par... je ramasse un pot de yaourt, on va pas acheter le pot de yaourt en verre parce que bon, on va le réutiliser, on va faire du riz au lait dedans, des choses comme ça. Et puis au fur et à mesure des années... Eh bien, on se retrouve avec 200, 300 pots de yaourt en verre. C'est vraiment très, très progressif. Et à partir du moment où on a les enfants, enfin tous les enfants ont été partis de la maison, où on a tous pris notre indépendance, eh bien là, ça s'est vraiment accentué.
Ça s'est accentué, vous pensez accéléré. Ça a eu justement peut-être un effet accélérateur, ce départ des enfants, parce qu'il n'y avait plus de témoins ?
Bah, il n'y avait plus de témoins, il y avait de la place, il n'y avait plus personne pour... pour dire stop, pour...
Aujourd'hui, vous pouvez décrire l'état d'envahissement du cadre de vie de vos parents ?
Ils ont une maison de 120 mètres carrés, ils vivent à peu près dans 10 à 12 mètres carrés.
Alors, vous dites « ils », ça veut dire que votre papa cohabite toujours avec votre mère.
Oui.
Comment est-ce qu'il vit la situation ?
Pas très bien. Pas très bien, parce que je sais que mon papa est en retraite depuis un an. Donc il avait posé le deal en disant « Attention, je vais être en retraite. On fait du vide dans la maison, on récupère de la place, on fait tout ce qu'il y a à faire et après j'entretiens. » Mais on le fait à deux. Et au final, à chaque fois, maman était fatiguée, avait mal au dos. Il y avait toutes les excuses possibles et inimaginables pour ne pas le faire en fait.
Vous en parlez avec eux ?
Alors avec mon père, oui. Avec maman, c'est pas possible.
Pourquoi c'est pas possible ? Pourquoi ?
C'est un mur, elle ne veut pas entendre.
Quand vous en parlez avec votre mère, il désigne justement son épouse comme quelqu'un qui n'est plus dans la normalité ou il n'a pas ces mots-là ? Il la considère comme malade sur le plan psychiatrique ?
Oui, oui, oui. Oui. Bah après, on sait, ça fait très longtemps que maman a une dépression. Enfin, on le sait, c'est quelque chose d'avéré, elle est soignée pour ça. Après, on sait que c'est la maladie aussi. Quoi.
Le nom a été mis par un médecin sur sa maladie. On a prononcé le mot syndrome de Diogène ou pas, non ?
Non, pas du tout, en fait. On est sûr à 99% parce que, vu l'état de la maison, vu son état, elle, physiquement, Et psychologiquement, voilà, on en est sûr à 90% parce qu'elle coche entre guillemets toutes les cases. Après, j'ai voulu, là, ça faisait 5 ans que je n'avais pas été chez mes parents.
Justine, est-ce que ça vous rassurait que le diagnostic soit posé pour votre mère ?
Bah, ça permettrait une prise en charge, en fait.
Parce que pour l'instant, elle est prise en charge pour la dépression, mais pas pour ses troubles associés.
C'est tout, en fait. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. C'est que ça faisait 5 ans que je n'avais pas été chez mes parents. J'y suis allée à l'automne.
Oui.
Il a fallu que j'ai dû prendre un Airbnb. Je suis allée avec ma fille et j'ai dû prendre un Airbnb pour aller voir mes parents, qui sont à 3 heures de route. Et j'ai dû insister pour aller, ne serait-ce qu'aux toilettes chez mes parents, et me changer avant d'aller récupérer les clés de l'Airbnb. Et quand j'ai vu l'état de la maison, j'ai fait une brève vidéo. Et en rentrant chez moi, 3 jours après, j'ai voulu contacter son psychiatre. Qui a refusé de me prendre au téléphone.
On entend, Justine, que vous souffrez de la situation. Votre maman, est-ce qu'elle en souffre de cette situation ?
Je pense.
Oui.
Je pense. Elle ne peut pas bien le vivre. Elle ne peut pas prendre sa petite fille en garde parce que la maison est dangereuse.
Ça la prive de beaucoup de choses. On va vous retrouver tout à l'heure, hein, Justine, si vous le voulez bien. Docteur Boris Chaumette, on entend la mère de Justine qui refuse d'en parler. Est-ce que justement, pour un certain nombre de ces maladies psychiatriques, il y a un vrai déni des patients ? Et dans ce cas-là, comment on peut faire pour les aider ?
Alors, le déni fait partie souvent de la maladie psychiatrique. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on utilise le mot déni en psychiatrie, alors qu'en neurologie, on utilise un autre mot qui s'appelle anosognosie, qui est probablement beaucoup plus compliqué à retenir. Mmh. Mais comme s'il y avait dans la psychiatrie un effort du patient pour dénier les troubles, alors qu'en neurologie, ça appartiendrait directement à la maladie. Donc, à mon avis, déjà, un petit élément sémantique là qui montre un peu la différence qu'on se fait entre. La psychiatrie serait presque un peu de la faute du patient. C'est évidemment pas de la faute du patient. Mmh. Alors qu'à la neurologie, on trouverait une excuse un peu organique.
Mais il y a des grandes maladies psychiatriques comme la schizophrénie. Beaucoup de personnes schizophrènes ne reconnaissent pas la réalité de leur maladie, se reconnaissent pas comme malades. Ça ne veut pas dire qu'ils disent que la maladie n'existe pas, mais en tout cas, elle ne les concerne pas eux.
Exactement. Les gens vont être capables de dire qu'ils ont une maladie psychiatrique sans préciser le terme. Par exemple, de dire j'ai une dépression plutôt qu'une schizophrénie ou j'ai de l'anxiété plutôt qu'un des éléments délirants. Donc, bien sûr, ça fait partie de la prise en charge. C'est très important d'ailleurs de travailler avec les familles à ce sujet-là, parce que les familles sont conscientes des troubles. Hein. Justine, elle le dit très bien
quand on ne peut plus voir ses parents, on en est conscient.
Bien sûr, bien sûr. Et puis, en tant que psychiatre, nous, on a tout à fait intérêt à intégrer les familles dans la prise en charge. Je demande régulièrement aux familles de nous apporter des photos de l'appartement ou de nous faire part de les symptômes.
Mais ça veut dire que vous pouvez faire changer les patients sur ce point ou finalement c'est peine perdue. Ils ne se reconnaîtront pas comme avec un problème, avec une maladie.
Non, c'est-à-dire que si vous restez juste sur une prise en charge superficielle par la discussion, il y a un moment où vous ne combattrez pas la partie déni du trouble, si on l'appelle comme ça. En revanche, les traitements vont améliorer les symptômes et faire prendre conscience à la personne.
Ça veut dire des médicaments.
Ça veut dire des médicaments. Il faut que la dépression de la maman de Justine soit traitée par des médicaments efficacement. Alors, je ne sais pas quel est le traitement, évidemment, et on ne peut pas le dire en antenne, mais c'est évidemment important qu'il y ait un traitement de fond de la maladie psychiatrique derrière.
Ça veut dire qu'il va falloir un traitement pour la dépression, un traitement pour le syndrome de Diogène, d'où l'importance de poser le diagnostic.
Alors, c'est surtout le traitement de la dépression qui va être important. Après, le syndrome de Diogène, il est consécutif à la dépression probablement et à l'accumulation. Et donc ça, ce sera le nettoyage de la maison.
Mais est-ce que la dimension de temps, excusez-moi, entre en compte ? C'est-à-dire que plus ça s'installe, plus c'est profond ou pas forcément ?
Il faut intervenir le plus vite possible. Ouais. Ça, on le sait, parce que les troubles vont avoir tendance sinon à se chroniciser. La personne va s'enfermer dans ses symptômes. Et donc, c'est un plaidoyer un peu pour l'intervention le plus tôt possible en psychiatrie.
On va y revenir. On va poursuivre cet échange dans quelques minutes. On se retrouve juste après Son Senga, titre de Conti Bilong.
Mongo matiti bwani na bise wa munao miombo mongo misidodi na langwedi wa munao makomongo matiti bwani na bise wa munao miombo mongo na mawasate wa na mena sente wa na timu sao
tiomba wasano na limo mwe bongo utiti bebe namba
na mawasate wa Mongo matiti bwami na bise wa munao miyombo mongo na mawasate wa tamena sente wa na timu sango
tiyo mawasano nolimo mwebongo kutiti bebe na ba
na mawasate wa tamena sente wa na titi musango
tiyo mawasano nolimo mwebongo.
Priorité santé sur RFI, nous parlons toujours des maladies psychiatriques rares en compagnie du docteur Boris Chaumette, psychiatre responsable du centre de référence pour les maladies rares expression psychiatrique à l'ex-hôpital Sainte-Anne GHU Paris Psychiatrie Neurosciences. Toujours avec nous en ligne, Justine, qui témoigne des changements observés chez sa maman, votre mère concernée par le syndrome de Diogène. Justine, accumulation, stockage, récupération et puis ce sentiment d'impasse. Justine, est-ce que vous en avez parlé à des médecins, à ces médecins directement?
En fait, j'ai contacté, suite à la visite chez mes parents, j'avais contacté sa psychiatre. Mmh. Et la seule réponse que j'ai, c'est je lui dis bonjour, je suis Mademoiselle Intel, vous suivez maman, j'aimerais vous parler. Et elle me dit, bah non, je ne vous écouterai pas, je vais en informer votre mère que vous m'avez appelée.
Mmh. Au nom du secret médical.
Mais je lui dis, mais je ne veux pas d'information en fait, je veux juste vous transmettre une info. Et si vous en parlez à maman, ça va être très compliqué. Et résultat des comptes, j'ai été quasiment 6 à 8 semaines sans avoir de nouvelles de ma mère suite à mon appel à son psychiatre.
Parce qu'elle était vexée?
Oui.
Elle était vexée. Et votre père, est-ce que, justement, si vous n'arrivez pas à agir par le biais du médecin et de votre maman...
Mon père était au courant que j'ai appelé son psychiatre. J'avais le feu vert de mon père pour appeler le psychiatre.
Est-ce que le psychiatre, votre papa accompagne votre maman en séance?
Alors, il l'a vu une fois et en séance, ça s'est pas hyper bien passé, a priori. Mais ma mère n'est pas consciente de la réalité de son état et elle raconte, allez, 10% de ses symptômes.
De la réalité. De la réalité.
Sa réalité.
Alors, vous le savez, on a un psychiatre avec nous en studio, Justine. Lui, il va accepter de vous répondre, bien sûr, pas sur tout le fond de ce problème qui dépasse largement le cadre d'une seule émission. Est-ce qu'il y a une question que vous souhaiteriez poser au docteur Chaumette qui est avec nous?
Comment on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider?
C'est une immense question. C'est une immense question qui se pose parce que vous avez essayé de joindre ce médecin, vous avez essayé de parler à votre maman. Aujourd'hui, vous êtes à l'écart de cette vie avec les grands-parents qui peut être si précieuse aussi pour vos enfants. Docteur Boris Chaumette.
En fait, mes parents voient ma fille. Hein,
ouais. Voilà, à l'extérieur, on se voit, mais à l'extérieur de la maison.
Chez moi. C'est ça. Mais le problème, c'est qu'un jour, ils ne seront plus capables de faire les 3 heures de route. Et là, ce sera compliqué.
Docteur Chaumette, comment vous réagissez à ce témoignage?
Bah, c'est malheureusement le cas que les familles ne sont pas assez écoutées en psychiatrie. Il faut absolument que les psychiatres aient conscience que les familles sont au premier plan et en première ligne face à la prise en charge de leurs proches. Et c'est eux souvent d'ailleurs sur lesquels on sait s'appuyer quand on est psychiatre pour les faire sortir les proches d'hospitalisation, leur demander si les proches ont bien suivi le traitement, etc. Donc je ne comprends pas bien l'attitude de ne pas recevoir les familles, mais je pense que il faudrait probablement insister auprès de ce psychiatre. Alors je ne sais pas si c'est du tout un psychiatre libéral en centre médico-psychologique ou quoi, mais en tout cas,
il faut libéral.
Bah, il faut peut-être questionner le fait de changer de professionnel. C'est toujours très compliqué, mais en tout cas, si on voit qu'au moment les choses n'avancent pas avec un professionnel, avec une prise en charge, il faut changer la prise en charge. Ça, c'est clair. Je pense qu'il faut pas s'enterrer dans une prise en charge qui ne fonctionne pas et qui s'éternise et qui n'apporte pas de solution.
Et peut-être trouver un écho plus favorable de la part d'un médecin généraliste qui serait plus à l'écoute peut-être pour vous justement vous entendre et ne pas rester justement dans cette optique du face-à-face entre le patient et le médecin.
Tout à fait. Et puis il y a des centres médico-psychologiques que vous pouvez solliciter avec, quand c'est possible, en fonction des moyens et des zones géographiques, des possibilités des fois de faire des visites à domicile. Il y a des infirmiers, des médecins qui peuvent aussi venir à domicile, constater les choses. Donc à mon avis, c'est peut-être une solution que vous pourriez essayer.
Voilà, Justine, on vous remercie en tout cas infiniment pour ce témoignage. On a bien compris le désarroi des proches, on se pose des questions, y compris quand on ne connaît pas
certains syndromes. On va parler de l'un d'entre eux tout de suite. C'est le syndrome de Cotard. Est-ce que vous pouvez nous décrire de quoi il s'agit, docteur Boris Chaumette ?
Alors, c'est un syndrome qui est très lié à la dépression, où les gens vont avoir l'impression qu'une partie de leur organisme ne fonctionne plus, voire qu'ils ont été amputés d'un bras, d'une jambe, que leurs intestins sont bouchés, et ça va aller jusqu'à l'idée même qu'on est mort. Et comme les personnes se rendent compte qu'elles ne sont pas physiquement, qu'elles n'ont pas physiquement disparu, qu'elles sont toujours là, souvent ça va donner une idée derrière d'éternité, de damnation. Je suis immortel et en même temps je suis mort. Des choses très très compliquées à concevoir, mais avec cette souffrance qui est très lié en fait à ces symptômes et du coup qui sous-tend une forme très sévère de dépression.
Et quand vous avez lu sur le site de RFI de Priorité Santé la description de ce syndrome de Cotard, Aboubacar, ça vous a fait penser à votre sœur. Aboubacar, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour docteur Chaumette.
Bonjour.
Alors vous êtes en ligne de Conakry, en ligne de Guinée. Expliquez-nous justement le lien que vous avez fait entre cette maladie, on va le dire très bizarre, c'est pas un jugement, c'est la réalité. Penser qu'on a un organe mort alors qu'on respire, penser qu'on a une partie de notre corps qui ne sert à rien alors qu'on est bien là, ça peut paraître compliqué à comprendre pour tout le monde sur la planète. Comment ça se passe chez votre sœur Aboubacar ?
Bon, ça se passe vraiment très mal. Ma sœur, elle souffre d'une maladie dont les symptômes sont identiques à celle du syndrome de Cotard. Mmh. À cet effet, je voudrais savoir comment diagnostique-t-on cette maladie ? Est-ce qu'il y a un traitement ? Si oui, lequel ? Et qu'est-ce que je peux savoir ou faire vu que je vis avec elle.
Parce que vous voulez l'aider, Aboubacar. Décrivez-nous, expliquez-nous ce dont souffre votre sœur, ce qu'elle décrit sur son corps, sur son ressenti. Qu'est-ce qu'elle vous dit ?
Elle me dit souvent qu'elle a l'impression que son estomac ne fonctionne pas. Au fait, son type digestif, il n'y a pas de sang qui circule dans son corps. Elle est morte, ressuscitée. Il y a souvent des chenilles qui marchent dans son corps, tout ça.
Est-ce qu'elle a une dépression ? Est-ce qu'elle est déjà allée voir un psychiatre ?
Elle n'est pas allée voir un psychiatre. On est parti en médecine générale. Vu qu'on ne comprenait pas ses plaintes, on l'a amenée en médecine générale. Donc, on est resté 10 jours à l'hôpital et ils nous ont dit de revenir à la maison. Mmh. Et physiquement, elle se portait bien. Mais elle continue toujours à se plaindre et on est en train de chercher un rendez-vous avec un psychiatre pour l'amener.
Est-ce qu'elle a vu un tradit, votre sœur, ou pas vraiment ?
Non.
Non, pas vu de tradit. Et justement, vous cherchez un psychiatre. Est-ce qu'il y en a des psychiatres dans votre entourage ? Est-ce que vous avez déjà été voir un psychiatre dans la famille ou c'est quelque chose qui vous est complètement étranger ?
C'est vraiment quelque chose qui nous semble étranger parce qu'on ne connaissait pas l'existence D'accord. de cette maladie.
Mmh. Mais vous sentez que votre sœur, elle souffre et vous avez envie de l'aider, c'est ça Aboubacar ? Et puis, comme vous vivez avec elle, j'imagine que ça complique aussi le quotidien de la famille.
Vraiment, oui. Mmh.
Alors, je me tourne vers le docteur Boris Chaumette. Évidemment, pas du tout la même offre du tout en psychiatrie, qu'on soit à Conakry ou à Paris, c'est évident. Mais en tout cas, le fait qu'Aboubacar pense accompagner sa sœur chez un psychiatre, c'est vraiment quelque chose qu'on peut lui conseiller, c'est une bonne chose.
Ah, il faut absolument le faire et bravo d'abord à l'émission qui permet que les gens prennent conscience que les troubles dont souffrent leurs proches sont d'origine psychiatrique et alimentent le fait qu'il faut intervenir et qu'il y a des prises en charge possibles. Hein, dans le cas de la sœur d'Aboubacar, un traitement antidépresseur est absolument nécessaire pour faire régresser la dépression et faire disparaître le syndrome de Cotard. Et c'est aussi important de comprendre que les petits signes qui apparaissent, et souvent apparaissent progressivement, doivent être pris assez rapidement en charge.
Mais ça veut dire que ces médicaments, ils peuvent vraiment aider, vraiment soulager ?
Complètement. Il y a...
Est-ce que vous avez soigné des gens comme ça ? Est-ce que vous avez vu des changements assez spectaculaires ? Parce qu'on entend chez Aboubacar, on va dire jusqu'à il y a quelques jours, il ignorait même si sa sœur pouvait être soignée.
Complètement, non. Il y a absolument une prise en charge qui est très très claire du syndrome de Cotard, parce que c'est des maladies qu'on sait traiter, la dépression, on sait la guérir. Et donc souvent, d'ailleurs, des gens vont s'améliorer de manière assez rapide, assez spectaculaire, et derrière vont critiquer les idées qu'ils ont eues en disant « Mais pourquoi je pensais ça ? C'est pas possible, c'était pas moi, il y avait quelque chose. » Effectivement, c'était pas eux, c'était eux plus la dépression qui donnait les symptômes.
Parce qu'il faut bien signaler qu'avec ce genre de maladie, quand on croit qu'on a un organe mort, ou même d'autres personnes, là c'est aussi totalement extraordinaire, qui demandent à être amputées d'un membre, ce qui peut paraître absolument incroyable, eh bien, il y a une réelle mise en danger. Ça n'a rien de drôle, c'est tragique.
C'est extrêmement tragique, avec des gens qui vont des fois commettre des suicides ou se faire du mal eux-mêmes physiquement. Il y a aussi des fois des gens qui vont penser qu'ils sont morts et qu'ils ont fait du mal aussi à l'entourage, que leur entourage est mort. Et donc, ça peut conduire même des fois ce qu'on appelle, de manière un peu abusive, le suicide altruiste, mais en fait, des gens qui vont passer à l'acte sur les autres en disant, de toute façon, tout le monde est mort, donc les gens ne sont pas là, et donc ce que je ne fais n'a pas de conséquences. Donc, il y a un risque pour la personne, éventuellement pour l'entourage, donc il faut absolument prendre ça en charge en psychiatrie.
Aboubacar, comment est-ce que vous ressentez les choses maintenant de dire, bah, je vais chercher un psy pour ma sœur, on va y aller, il y a peut-être une issue. Comment est-ce que vous voyez les choses?
À vrai dire, depuis que j'ai suivi l'existence du syndrome de Cotta, moralement, ça me soulage. Parce que je pense qu'aller voir un psychiatre peut beaucoup nous aider.
Oui, c'est ça. C'est important d'avoir cette notion de diagnostic quand on est dans l'errance. L'errance diagnostique, ne pas savoir, on a à côté de soi quelqu'un qui souffre, on ne sait pas comment on peut l'aider. Là, c'est vraiment quelque chose, une première étape très importante, docteur.
C'est extrêmement important de nommer les choses, parce que le cerveau humain, il est fait de telle sorte qu'on a besoin de savoir ce qui se passe. Donc, mettre un mot, un diagnostic sur quelque chose, déjà, c'est une partie du travail. C'est intéressant parce qu'il y a des diagnostics comme le syndrome de Cotta, on peut traiter les gens et on peut espérer un retour à la normale. Et il y a même des gens qui, une fois qu'on a mis un mot sur la maladie, même si on n'a pas le traitement, ne sont soulagés juste par le fait qu'on a nommé les choses, que ce n'est plus quelque chose d'inconnu ou on ne sait pas trop ce qui se passe. On lève ça, une sorte de tabou à ce moment-là.
Et justement, on voulait remercier Aboubacar pour ce témoignage parce qu'en parler aussi, dire qu'il y a quelqu'un dans sa famille concerné par une maladie psychiatrique, c'est souvent lever un tabou. On vous remercie pour votre courage, Aboubacar. Et on vous dit bonne continuation pour toute la famille. Et on va avoir tout de suite un autre regard. On part pour la République démocratique du Congo.
RFI à Kinshasa, 105 FM.
Où l'on vous retrouve, professeur Samuel Mampounza. Bonjour.
Bonjour madame.
Professeur neuropsychiatre, président de la Société africaine de santé mentale. On vient d'en avoir l'illustration avec la Guinée. Hein, ces troubles psychiatriques rares dont on parle depuis le début de cette émission, on les retrouve partout dans le monde. Professeur Mampounza, est-ce que vous y avez été confronté, vous, personnellement, au cours de votre très longue carrière, on peut le dire?
Ah oui, les troubles psychiatriques rares ou les syndromes psychiatriques rares existent bien. Par définition, vous avez en moyenne moins d'un cas sur 2000 habitants, donc ça existe. Et c'est clair que chez nous, en Afrique, ce qui est le plus visible, c'est le syndrome de Cotta. Vous savez, l'Africain a une expression physique corporelle assez poussée. Et donc, avoir des problèmes de délire concernant le corps, l'absence de corps, la transformation des organes, c'est ce que je trouve assez souvent, ou les quelques fois que j'en ai trouvé. Donc ça existe, le problème.
Ça existe. Et juste pour rester en lien avec cet auditeur qu'on vient d'avoir en ligne, Aboubacar, s'il va consulter un psy à Conakry, vous avez pris en charge vous-même des personnes concernées par le syndrome de Cotta, vous avez trouvé des réponses médicamenteuses en termes de traitement satisfaisantes dans un contexte en Afrique subsaharienne? On peut dire on trouve les bons médicaments?
Oui, d'abord, ces gens arrivent bien tard chez le psychiatre, ouais. Il faut les reconnaître, parce que nous, c'est la relève du registre du mystique un peu. Donc on va voir des gens pour expliquer plutôt que pour soigner. Mm-hmm. Pourquoi ça arrive, etc. Mais quand ils arrivent quand même à voir le psychiatre, quand ils m'ont vu, pour ceux que j'ai consultés, c'est des personnes qui sont, bien sûr, qui ont des syndromes de Cotta, mais qui sont aussi déprimées. Mm-hmm. Parce que vivre cette situation-là entraîne une dépression. Et donc, ce que je fais, c'est d'abord rassurer l'entourage. Le patient lui-même n'a pas vraiment conscience de ce trouble. Il vit cela comme une étrangeté, mais il faut commencer par rassurer l'entourage et le patient. Leur dire que ça existe. C'est bien décrit. Une fois qu'on a passé cette étape-là, que les gens comprennent que c'est normal, entre guillemets, que cela arrive, c'est une maladie, c'est la solution qu'il faut leur proposer. La solution, c'est quoi? C'est que les personnes prennent conscience de la nécessité d'accompagner le malade. L'accompagner parce que lui-même ne vient pas consulter, donc pourquoi l'amène chez le médecin? Mm-hmm. Il s'engage à s'assurer que les petits médicaments, ne fût-ce que la dépression, parce qu'il y a une dépression qui est consécutive à ces situations pénibles que vit le malade, on soigne cette dépression, bien sûr qu'on peut aussi, si on pense qu'il s'agit d'hallucinations psychiques qui font qu'on vive, qu'on se vive comme amputé ou transformé physiquement, on peut, il y a certains neuroleptiques, médicaments qui peuvent aider aussi. Mmh. Et bien sûr qu'il faut parler à la personne. Vous lui dites, voilà, et si vous pensez que votre main est partie, mais vous mangez quand même avec votre main, etc.
Donc ça veut dire les deux, un accompagnement aussi bien par la psychothérapie que par l'approche chimique médicamenteuse. Professeur Mampounza, quelle autre maladie est-ce que vous avez rencontré justement quand on parle de ces troubles un petit peu inhabituels?
Ah oui, j'ai eu souvent à voir des personnes qui présentent le syndrome de Diogène. C'est des gens qui sont très négligés sur le plan physique, vestimentaire, corporel, et qui collectionnent, qui vivent dans les désordres. Tellement ils amassent les choses avec eux, jusqu'à manquer même où mettre le pied.
Tout à l'heure, on a eu l'auditrice, Justine, sa maman était concernée par ce syndrome de Diogène. On a aussi des personnes, quand on a préparé l'émission, vous avez parlé de ces personnes qui se vivent dans des aventures extraordinaires, des contes, des mythes, qui sont des personnages, des héros dans leur esprit, pas dans la réalité.
Effectivement, il y a des personnes qui vous vivent qui se vivent dans des conditions tout à fait mystérieuses, entre guillemets, qui se promènent sur une tige de bambou et qu'il va de village en village. Effectivement, il croit à cela. Ça existe.
Et c'est mis par l'entourage en lien avec un problème de santé mentale. Est-ce qu'ils font la connexion en disant c'est psychiatrique ou on pense plutôt dans ces cas-là, dans ces contextes, à la magie?
Bien sûr que c'est les registres culturels traditionnels qui triment. Ils ne trouvent pas ça que c'est malade, mais cette personne a des pouvoirs ou est envoûtée ou est transformée, que ce n'est pas sa faute. Donc, il faut invoquer, je ne sais pas quel esprit, il faut trouver quel prophète guérisseur pour l'en sortir de là, parce qu'il n'est pas responsable ou qu'il a un pouvoir particulier. Le problème, c'est surtout quand les personnes vivent cela tout en restant fonctionnelles dans certains domaines de la vie. Ces personnes-là sont assez dangereuses, parce qu'il va travailler, mais il y a des moments où il se prend pour quelqu'un qui vole de village en village, à travers, sur une branche, etc. Et ils peuvent embarquer dans ces convictions-là d'autres personnes qui peuvent suivre.
C'est d'ailleurs le cas, j'imagine, d'un certain nombre de prédicateurs. Je cite personne, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui se pensent investis de quelque chose d'extrêmement puissant et qui peuvent entraîner dans leur sillage des personnes qu'on jugera crédules sans justement porter la moindre valeur morale sur leur comportement. En tout cas, ce qui est important pour ces personnes, quand on n'a pas les ressources psychiatriques pour leur venir en aide, c'est de dire qu'il n'y a pas forcément d'exclusion de ces personnes qui souffrent de ces troubles.
Non, chez nous, effectivement, ils sont très rarement exclus parce que on pense que d'abord, c'est pas leur faute ou qu'ils apportent un message ou que ça peut servir à la communauté. C'est seulement quand ils ont un comportement qui devient vraiment antisocial, qui devient dangereux pour eux-mêmes, pour les autres, c'est à ce moment-là que les problèmes se posent. Autrement, ils sont vécus, je dirais, plus ou moins positivement quand même.
On vous remercie infiniment, professeur Samuel Mampounza, pour votre éclairage. C'était vraiment très intéressant. Merci d'avoir répondu à nos questions. Très bonne journée à Kinshasa. Docteur Boris Chaumette, on disait tout à l'heure, des troubles, des manifestations en fonction de la géographie, des milieux culturels. Et on le voit aussi, l'acceptation, l'inclusion du patient dans la cité qui va dépendre de notre cadre de vie également.
Complètement, on le voit très bien, on n'a pas la même vision en France que, par exemple, de ce que racontait le collègue de Kinshasa, où nous, on va souvent avoir tendance à exclure les gens de la société, ceux qui nous font peur, ceux qui sont différents, ceux qu'on ne comprend pas. On a tendance à les exclure, à les stigmatiser. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on arrive à casser, cette image-là, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, le fait de stigmatiser les gens, d'abord, ça les fait souffrir, évidemment, mais en plus, ça retarde l'accès aux soins, ça retarde le fait de pouvoir leur offrir des prises en charge efficaces.
Alors, quand on parle du vocabulaire, bipolaire, hein, de la santé mentale. Est-ce que ces troubles psychiatriques, ça entre dans la catégorie des troubles psychotiques ou est-ce que c'est pas du tout ça ?
Psychotique, ça veut dire qui en fait rompt avec la réalité, qui sort de la réalité. Donc par exemple, quand vous imaginez que vous avez les disparitions d'un organe, bah, vous avez une perte de contact avec la réalité, donc c'est des éléments psychotiques. Mais on peut avoir une psychose dans différentes maladies, par exemple dans le syndrome de Cotard, c'est lié à une dépression, et donc on dira dépression avec éléments psychotiques. Donc après, il y a des maladies qui, par essence, sont psychotiques. La schizophrénie, c'est un trouble psychotique.
Est-ce que la prise de substances, je pense bien sûr à la consommation de certaines drogues, pas forcément d'ailleurs uniquement ce qu'on appelle les drogues, ça peut être aussi de l'alcool, ce qui est aussi une drogue, peut déclencher ce type de manifestation?
Oui, il y a beaucoup de drogues qui sont connues pour déclencher des troubles psychiatriques, hein, notamment le cannabis, et encore plus puisqu'il y a en ce moment une arrivée de nouvelles molécules en fait. Hein, le marché de la drogue est en perpétuelle évolution, et donc vraiment c'est un message pour les auditeurs, faites très attention avec les nouvelles substances qui sortent, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Il y a des patients qui vraiment développent des troubles psychiatriques irréversibles après une consommation d'une drogue particulière.
Attention, c'est pas parce que ça ressemble à un cachet, ça ressemble à un médicament, que c'est sans danger.
Ah bah ça peut même être pire que les médicaments, et c'est souvent le cas d'ailleurs.
Alors, ces troubles qui nécessitent une prise en charge psychiatrique, on l'a bien compris, docteur Boris Chaumette, mais on le voyait tout à l'heure aussi avec l'auditrice, avec Justine, ce témoin qui nous disait la psy, elle veut pas me prendre en ligne, tout simplement, et ça peut arriver quand on a des patients qui sont adultes, qui ne sont pas sous contrainte, hein, pour le vocabulaire psychiatrique. Des fois, c'est difficile d'avoir le psychiatre en ligne du patient, que ce soit une mère, une fille ou un conjoint. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a aussi un travail véritablement de sensibilisation du médecin de premier recours, du médecin généraliste?
Oui, d'abord, il faut savoir qu'il y a des associations qui peuvent aider les familles, donc les associations de santé mentale, par exemple l'UNAFAM, le collectif schizophrénie pour les patients qui souffrent de schizophrénie. Il y a même une association qui s'appelle ProFamille, qui existe sur l'ensemble du territoire, que les familles peuvent consulter. Il y a un site internet, hein, ProFamille. Et puis... il faut effectivement travailler en bonne intelligence entre les différents professionnels de santé, c'est-à-dire que on peut tout à fait s'appuyer sur le généraliste, sur le psychiatre quand il est d'accord pour recevoir la famille. Donc je pense qu'il y a quand même des ressources dans lesquelles il faut que la famille arrive à se saisir.
On a entendu des maladies parfois, docteur Chaumette, qui s'installent. Est-ce qu'elles arrivent, c'était peut-être une question du début mais je la pose à la fin, sous forme de crise, c'est-à-dire quelqu'un va se réveiller du jour au lendemain avec ce délire? Et là, dans ces cas-là, une question extrêmement concrète, extrêmement utile, qu'est-ce qu'on fait ?
Ce qu'on appelle les délires aigus, c'est-à-dire que les gens qui se mettent à délirer du jour au lendemain, et ça c'est une urgence, et ça veut dire hospitalisation, en tout cas amener la personne aux urgences. Donc en métropole, il faut appeler le 15 et faire
appel aux pompiers. Mais là, c'est valable pour des troubles dont on a décrit, ça peut être un frigoli, je me réveille et mon époux me dit mais tu n'es pas toi, tu es quelqu'un d'autre, ça peut arriver.
Alors il y a différentes formes, mais oui, il peut y avoir des débuts très très brutaux comme ça, des troubles. Et puis là où c'est plus difficile, c'est quand ça devient de manière un peu insidieuse, comme disait tout à l'heure Justine, c'est-à-dire tous les jours ça augmente petit à petit, on s'en rend pas compte, puis il y a des événements de vie, le départ des enfants, etc., qui précipitent un peu les choses. Et là, souvent, c'est ce qui conduit à un retard d'accès aux soins, parce qu'en fait, à quel moment on intervient? Le jour où il y a des propos bizarres, à quel moment? Et donc, c'est là où, en fait, il ne faut pas hésiter à en parler au médecin de famille et éventuellement consulter un psychiatre.
On vous remercie infiniment, hein, docteur Boris Chaumette, pour toutes ces explications, d'avoir répondu à notre invitation aujourd'hui dans Priorité Santé. Je rappelle que vous êtes psychiatre responsable du Centre de référence pour les maladies rares à expression psychiatrique au groupe hospitalo-universitaire Paris Psychiatrique, Psychiatrie et Neurosciences ex-Sainte-Anne. Notre chronique nutrition dans Priorité Santé, rendez-vous que vous nous donnez régulièrement à Stéphane Besançon, bonjour.
Bonjour.
Stéphane, nutritionniste, directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako, au Mali. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur nos besoins, la notion d'équilibre, de bien-être, car bien manger, c'est aussi écouter son corps. Pour commencer, Stéphane, essayez de définir cette fameuse notion de bien manger.
Alors, il n'y a pas une définition unique de la notion de bien manger. Pour moi, pour bien manger, il faut prendre en compte plusieurs paramètres. En premier lieu, il faut bien sûr appliquer les recommandations nutritionnelles qui vont permettre d'adopter une alimentation équilibrée et diversifiée. Alors, ces recommandations suivent 5 grands principes qu'on rappelle souvent. Réduire la consommation de graisse, de sel et de sucre. En parallèle, augmenter fortement la consommation de fruits et de légumes. Réduire au maximum la consommation d'aliments transformés et ultra transformés pour préparer le plus possible soi-même les plats à partir d'aliments bruts ou faiblement transformés. limiter au plus possible les grignotages et enfin boire principalement de l'eau et éviter au maximum toutes les formes de boissons sucrées. Maintenant, ces recommandations nutritionnelles permettent de savoir quoi manger, mais pour bien manger, il faut aller aussi plus loin et prendre en compte trois autres notions très importantes. Identifier pourquoi on souhaite manger, choisir dans quel environnement on va manger et enfin ne pas oublier que manger doit être un plaisir.
Et comprendre aussi, apprendre à reconnaître, identifier ces situations dans lesquelles on a réellement besoin de manger.
Alors, pour identifier si on a réellement besoin de manger, il faut savoir apprendre à écouter son corps. Ceci va permettre d'être à l'écoute de ses sensations lorsque l'on mange, mais aussi lorsque l'on boit, afin de mieux appréhender l'effet des aliments et de l'hydratation sur notre énergie, nos pensées et nos humeurs. C'est central pour mieux comprendre si l'on mange par faim, par ennui ou par stress, et par conséquent pour savoir reconnaître notre besoin à combler une faim réelle d'une faim plus émotionnelle. Alors pour réaliser ceci, en pratique, on peut conseiller deux petits exercices. Alors d'abord, avant de commencer à manger, il faut porter son attention sur sa respiration pour permettre d'observer les sensations autour de notre ventre et relier celles-ci aux besoins que notre corps exprime. Est-ce qu'il demande de combler une petite, une moyenne ou une grande faim? Ou bien est-ce qu'il demande juste de combler un stress ou un ennui sans présence d'une faim réelle? Ensuite, pendant que l'on mange, il faut porter son attention sur l'effet de ce que l'on ingère sur nos sens. L'ouïe, l'odeur, la saveur et les sensations produites dans le corps. Ça va permettre d'analyser si l'on rassasie son goût pour un aliment, sa faim ou si on apaise son stress.
Et l'une des bases dans cette approche, c'est donc de savoir différencier le goût de la faim.
Oui, car le goût pour un aliment, c'est l'envie de cet aliment. Si l'on se focalise que sur ce goût, on va avaler l'aliment, puis en reprendre et ainsi de suite sans porter attention à sa faim réelle pour finir par manger en excès. Par contre, si on se focalise sur sa faim réelle, on va manger jusqu'à la perte de sensation de faim, puis s'arrêter naturellement sans excès.
Maintenant que l'on sait quoi manger et quand manger, est-ce qu'il y a des conditions spéciales, Stéphane, ou des environnements à privilégier pour bien manger?
Ah oui, on sait aujourd'hui qu'il faut absolument éviter de manger à son bureau, devant son écran d'ordinateur ou à la maison devant la télévision. La recommandation est donc de ne jamais manger devant un écran, car le risque est de manger plus et de favoriser une prise de poids, que l'on soit un enfant ou un adulte. Si l'on mange devant un écran, il va absorber et focaliser toute notre attention et provoquer en conséquence qu'on va manger plus que l'on ne devrait sans être attentif aux signaux de satiété envoyés par l'organisme. On va manger en quantité plus importante au cours de ce repas sans que notre esprit ne comptabilise vraiment tout ce qui a été ingéré et du coup, en plus, on mangera plus au repas suivant, même si on n'est pas devant un écran, car le corps va compenser ce qu'il n'a pas pu absorber au repas précédent.
Alors Stéphane, un petit récapitulatif de vos différentes recommandations.
Alors si on résume ces différents conseils, pour bien manger, il faut manger équilibré et diversifié, au calme et autour d'une table sans écran allumé. Il faut aussi bien écouter son corps avant de commencer à manger et pendant le repas. Il ne faut pas oublier aussi de manger doucement, car il faut environ 30 minutes pour que le cerveau se rende compte qu'il est rassasié. Enfin, même si manger répond à un besoin de notre corps, il ne faut pas oublier que l'alimentation est un plaisir et il faut manger des choses qui donnent du goût et qui font plaisir.
Merci beaucoup Stéphane Besançon et à bientôt dans Priorité Santé. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique, réalise votre émission. Aujourd'hui, Ophélie Lassen, Louise Calédec, Stéphane Elsley, Steven, bien sûr, pas Stéphane, et Laurent Hérault, où avais-je la tête? Demain, nous parlerons de la pandémie de Covid-19, nouvel état des lieux en cette rentrée. Dernier chiffre, point sur la vaccination, variant Delta, immunité, stratégie en fonction des pays. On se retrouve demain et d'ici là, portez-vous bien, lavez-vous bien les mains.
Vous avez suivi Priorité Santé avec Sounou Assurance, qui assure les études de vos enfants, quels que soient les aléas de la vie. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance. 7